Actu SF, les podcasts.
Je suis désolé, nous n'avons pas le générique, mais le cœur y est. Je pense que la plupart d'entre vous ont lu la série, ou sinon, alors là, il faut le faire, évidemment. J'ai lu la série il y a déjà pas mal d'années, et c'est une série éblouissante. Plutôt, je l'ai relue une fois qu'elle a été presque complète, mais pas tout à fait. On en dira un mot vers la fin, je pense, de la discussion. Sera-t-elle finie un jour? Et puis, évidemment, j'ai suivi tous les épisodes de Game of Thrones et j'ai vu le dénouement. On en parlera. Alors, au moment où on abordera la question, on vous fera un petit signe pour les personnes qui ne veulent pas savoir, pour en sortir 5 minutes pour quand même, et spoiler, parce que là on va quand même raconter la fin un minimum, enfin on va en parler, donc ça sera vers la fin de notre discussion, je pense, à partir de vers 45 ou moins 20, je ferai un petit signe, je dirai un petit mot en disant: ceux qui ne veulent pas savoir, sortez 5 minutes et on va discuter entre nous. Un grand merci en tout cas d'être aussi nombreux un dimanche matin, et pour certains d'entre vous d'avoir séché la messe. On est vraiment très sensible à votre engagement aux Imaginales. On est heureux de vous retrouver en cette quatrième journée. Vous avez vu que la maintenance climatique de la ville d'Épinal a fait merveille. L'an dernier, c'était les chamans à qui on l'avait confié. C'était bien aussi. Le temps est donc de la partie. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Et on va donc pouvoir démarrer cette table ronde, cette fois-ci un tout petit peu plus sérieusement. Game of Thrones, une épopée démesurée, point d'interrogation. Pour ma part, j'aurais volontiers retiré le point d'interrogation. Je vous présente donc nos invités. On a d'abord un très honorable historien, Laurent Vissière, mais qui est avant tout, je crois, un passionné aussi de Game of Thrones et qui, évidemment, à la lumière de ses compétences, nous éclairera sur les rapports entre Game of Thrones et l'histoire, entre le réel et la fiction. Nous avons ensuite avec nous Nicolas Allard, qui est donc l'auteur d'un ouvrage d'abord sur Star Wars, c'est comme ça qu'on l'a découvert, qu'on l'a connu, et puis ensuite un second ouvrage qui cette fois-ci lui a valu une invitation aux Imaginales. D'ailleurs, c'était sans doute la seule motivation d'écrire ce livre, cet essai, c'était d'être invité aux Imaginales, il nous le confirmera. Et donc Nicolas Allard a écrit là aussi un essai consacré à Game of Thrones. C'est un très honorable agrégé, il travaille en classe préparatoire, c'est quand même pas tous les enseignants qu'on confie ça. J'étais enseignant, donc je connais bien, je suis passé par les classes prépa, donc je sais à quel point c'est une belle reconnaissance professionnelle. Mais à côté de ça, il s'encanaille. Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est s'encanailler? Bon, voilà, je crois que Game of Thrones nous donne aussi de la respectabilité, même si c'est pas notre préoccupation première, c'est la passion bien évidemment qui nous inspire tous. Nafadora, vous êtes vous membre de la garde de nuit, donc vous étiez sur le mur et vous avez accepté de venir ici nous rencontrer, je vous en remercie. Et puis Victor Fleury, alors vous n'avez pas écrit sur Game of Thrones, vous n'êtes pas historien, vous ne faites pas partie de la garde de nuit. Nafodora m'a dit qu'elle souhaiterait vous engager, vous en parlerez après la discussion. Et en tout cas, vous écrivez des romans de fiction, et La Croisade éternelle est un roman qui a quelque part des liens avec notre sujet, et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que Game of Thrones nous inspire et inspire les écrivains. Voilà, apparaît cette petite présentation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi, Nafodora, la garde de nuit?
Alors, la garde de nuit, c'est un site internet et une association. On a été créé bien avant la série, puisqu'on a été créé en 2005. On est avant tout passionné des livres de George Martin. Et donc on a à la fois un forum de discussion sur lequel on a de longs débats sur les théories, sur la suite de la saga, sur la série aussi. Et on a également un blog d'actualité sur lequel on décrypte les livres de façon un peu plus poussée, et un wiki de 6800 articles sur lequel vous pouvez suivre à peu près tous les éléments de la saga, la géographie, l'histoire, les personnages. Vous trouverez tout, surtout, sur l'encyclopédie de la garde de nuit.
Après cette petite présentation, une autre petite question. Qu'est-ce qui fait que quand on aime la littérature d'imaginaire, la fantasy, parfois l'œuvre de Martin, on nous dira aussi à la fin un mot, parce que Martin ne se résume pas à la série Le Trône de Fer, même si c'est évidemment une série de grand niveau, de grande qualité emblématique. Qu'est-ce qui pousse une lectrice, quelqu'un qui aime la fantaisie, à devenir fan, quelque part, à s'engager? Est-ce que ça veut dire que nécessairement ça traduit une série emblématique et qui dépasse l'impact habituel des romans, même à succès?
Alors, évidemment, il y a tellement de choses dans cette saga à décrypter, tellement de pistes qui sont lancées. Quand on a envie de toutes les suivre, tout de suite on devient fan, on est fasciné par cet univers immense, par toutes les inspirations historiques qui ont été disséminées un peu partout et qui peuvent venir de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Venise médiévale. Enfin, vraiment, il y a des inspirations partout qui créent un monde qui est à la fois cohérent et fascinant. Donc, tout ça, quand on plonge dedans, on n'a plus envie d'en sortir, et c'est comme ça qu'on se retrouve depuis 2005 sur un forum à en discuter.
On va interroger très vite Nicolas Allard sur la série, mais avant je voulais un éclairage justement historique. Laurent Vissière, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, même si Martine lui-même a fait allusion clairement à une grande saga, celle de historique, celle de Maurice Druon, quelles sont les origines, je dirais, historiques de l'inspiration de Martine pour écrire le Trône de Fer?
Eh bien, Martine est un homme avant tout qui aime le Moyen-Âge, et ça se sent. Donc il y a des inspirations qui sont à la fois historiques et littéraires. Je crois que c'est ça qui est très important pour lui. Et alors, il a expliqué que les Druons avaient été importants, les rois maudits, l'idée de cette querelle dynastique qui débouche sur une guerre civile. Mais en fait, l'autre source d'inspiration, ça serait Shakespeare avec la guerre des deux roses. Et son imaginaire nous renvoie en réalité, et avant tout, à l'Angleterre de la seconde moitié du 15e siècle. Cette Angleterre qui est ravagée par une guerre civile, la guerre des roses, d'une complexité inouïe. Mais là-dedans, vous avez les York et les Lancaster. Et Lancaster, on entend quand même Lannister, hein, très, très nettement. Et sa perception de la période est aussi bien historique. On sent bien qu'il y a un effort pour se situer plutôt dans ce monde-là, enfin autour de Port-Royal, et en même temps il y a un effort littéraire, puisque cette guerre des deux roses a inspiré un certain nombre d'œuvres littéraires. Alors, je parlais de Shakespeare, c'est un peu lointain, mais pour un public anglo-saxon c'est important. Mais il y a également l'œuvre fondamentale de Thomas Malory vers 1480, qui raconte toute la saga du roi Arthur en anglais pour la première fois. Jusqu'à là, il fallait le lire en français, et pour les Anglais de la fin du 15e, c'est un problème. Donc pour un anglo-saxon, le roi Arthur et tout l'imaginaire chevaleresque, ça commence en réalité non pas avec Chrétien de Troyes comme pour nous, mais plutôt avec Thomas Malory. Je crois qu'il est là-dedans, et la beauté de la saga de Martine, c'est que justement il mêle l'histoire et la littérature, mais ciblée sur une même période.
Petit aparté, le texte de Malory a été traduit et publié par l'Atalante, et c'était vraiment un très bel ouvrage. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est la fantaisie celtique et historique, je pense que c'est vraiment une lecture intéressante. À vous, Nicolas Allard, vous êtes intéressé à une première saga qui est Star Wars, et là on est dans le domaine de la science-fiction, et cette fois-ci vous avez écrit un essai sur Game of Thrones. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, un respectable enseignant de classe préparatoire, agrégé de lettres, à vous passionner pour l'imaginaire, à vous passionner pour la fantaisie, et aller dans une maison plutôt universitaire, hein, votre éditeur Belin, oui, si ma mémoire est bonne, est quand même plutôt un éditeur universitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un essai sur Game of Thrones? Est-ce que c'est par hasard le fait que vos élèves seraient passionnés par Game of Thrones?
Alors, l'éditeur est Armand Collin.
Armand Collin, pardonnez-moi.
Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un de si respectable que ça, donc c'est peut-être déjà un premier élément de réponse. Et en fait, moi, je m'intéresse considérablement à la pop culture. Je considère que ce sont vraiment des œuvres artistiques qui méritent beaucoup plus d'intérêt qu'on aurait pu leur en donner précédemment, puisque parfois on avait tendance à les considérer avec un certain dédain, un certain mépris, alors qu'en fait ce sont des œuvres d'une grande richesse. Donc aussi bien Star Wars que Game of Thrones méritent des études qui soient assez poussées, qui ne se contentent pas justement de dire on aime ou on n'aime pas. Et c'est vrai que beaucoup de mes étudiants en classe préparatoire sont absolument passionnés par Game of Thrones, que ce soit la série télévisée ou les romans. Et ils ont toujours plaisir à échanger avec moi à la fin des cours, parfois même pendant les cours. Donc on s'encanaille mutuellement à ce moment-là. Et voilà, moi, ce que je trouve fascinant dans l'œuvre de George Martin, et Nymphadora l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle est d'une incroyable richesse. On a des personnages qui sont évolutifs, qui sont très complexes, ce que l'on ne retrouve pas dans tous les textes romanesques, même des textes romanesques dits classiques. Et puis il y a également une somme de thématiques qui est absolument incroyable. Il y a des réflexions sur la vie, sur la mort, la famille, le pouvoir, même des réflexions sur la fin de vie. Hein. Je pense par exemple au personnage d'Auster Tully, le père de Catelyn Stark dans les romans, qui est touché par ce qu'on pourrait presque appeler la maladie d'Alzheimer. Et il y a une réflexion autour de cela. Donc voilà, moi je crois que j'aime beaucoup cette formulation qu'emploie le magazine Le Point Pop pour parler de la pop culture. Fun is serious. Le divertissement, en fait, doit être considéré avec un certain sérieux, avec un certain intérêt, parce que c'est une œuvre qui peut certes totalement parler à des personnes qui vont s'en tenir vraiment à l'histoire de la manière la plus plate et la plus simple possible, mais quand on s'y intéresse de près, c'est une œuvre d'une incroyable richesse et complexité.
Vous avez été obligé, j'imagine, enfin oui, je l'imagine puisque je l'ai lu dans votre essai, de faire des choix. Quel était votre angle d'attaque pour justement parler de Game of Thrones? Parce que c'est tellement vaste que vous ne pouviez évidemment pas, dans un essai grand public, tout traiter.
Non, bien sûr. Tout d'abord voulu, parce que ça n'avait pas encore été fait dans le domaine francophone, étudier aussi bien la série télévisée que les romans, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait que des essais sur la série télévisée. Et j'avais envie aussi de rendre hommage au texte de George Martin. Donc toutes les citations qui se trouvent dans le livre sont issues des romans de George Martin. Et mon angle d'approche principal a été d'essayer de comprendre justement le succès de Game of Thrones, comprendre pourquoi Game of Thrones pouvait parler finalement à des personnes qui sont issues de milieux sociaux tout à fait différents et parfois également de générations très différentes, puisque ça, ce qui m'avait fasciné en m'intéressant à la série, c'est de voir que on pouvait très bien avoir 15 ans comme 50 ans, 60 ou 70 ans et s'intéresser très fortement à la série. Donc j'ai vraiment voulu essayer de comprendre le succès de la saga en m'intéressant à des points thématiques comme les personnages, la question du coup de théâtre qui est permanent et qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière saison. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc voilà quel était mon angle principal.
Petite question toujours sur la série. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la série télévisée s'appelle Game of Thrones et que la série de romans s'appelle De glace et de feu?
Oui, c'est une bonne question. D'après moi, ça laisse entendre déjà que l'on est face à deux supports artistiques totalement différents. Hein, et on le voit bien, d'ailleurs, il n'y a quasiment aucun précédent dans l'histoire de la littérature. Une adaptation qui dépasse l'œuvre originale, qui donne le dénouement avant l'œuvre originale, ça pose tout un tas de questions passionnantes qui vont nous occuper encore ces prochaines années, puisqu'on attend encore la publication des deux derniers tomes, s'il n'y a pas un troisième et dernier tome qui sera encore proposé, ce qui n'est pas à exclure. Je crois qu'également ça nous montre vraiment que la série télévisée s'intéresse plus peut-être encore que les romans au jeu de pouvoir, au fameux jeu des trônes dont il est question. Et je crois d'ailleurs que la dernière saison le montre bien. Alors peut-être que je ne vais pas entrer tout de suite dans les détails, mais dans les deux principaux conflits qui sont représentés à la fin de la saison 7, à savoir la lutte pour le trône de fer et la lutte contre les marcheurs blancs, on voit bien que la dernière saison accorde finalement plus d'importance à la lutte pour le pouvoir, pour le trône, qu'à la lutte contre la mort.
On va parler aussi du rapport au pouvoir, parce que c'est quand même un des grands axes, hein, la bataille pour le pouvoir, c'est quand même bien ça du début à la fin, même s'il y a évidemment une grande richesse de thématiques autour. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un essai qui est paru aussi, qui a été traduit en France, mais qui est paru surtout en Espagne, et qui est une série d'articles et d'essais qui a été coordonné, y compris il y a lui-même contribué, par le leader de Podemos, le mouvement politique radical de gauche, on va dire, pas extrême gauche, mais radical de gauche. Est fascinant, y compris de voir ce qu'un politique ose écrire, une sorte de franchise, en expliquant qu'en effet, la prise du pouvoir, y compris avec des valeurs, c'était Game of Thrones, et on les tuait vraiment. Pas tout à fait physiquement dans la politique aujourd'hui, dans des pays on va dire, un peu apaisé, quoique. Mais voilà, et est-ce que vous l'avez lu, cet essai ?
Oui, oui, je le connais, effectivement. Ça nous montre à quel point, finalement, Game of Thrones, une des raisons de son succès, c'est que c'est une œuvre d'actualité. On a beau être dans un Moyen-Âge fantastique, finalement, les thématiques qui sont traitées nous sont assez proches. Je parlais tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer, mais même la menace des marcheurs blancs, on peut l'apercevoir comme une sorte de métaphore du réchauffement climatique. Et il faut rappeler d'ailleurs que George Martin a une conscience écologique forte bien avant que l'on commence justement à traiter cette question de manière si prégnante dans notre société. Donc je crois que c'est en cela que Game of Thrones peut être repris aussi bien par des hommes politiques que par des personnes qui vont s'intéresser à la philosophie, à l'histoire, à la sociologie. C'est une œuvre qui fondamentalement parle de nous et de notre monde.
Victor Fleury, La Croisade éternelle, en quoi un romancier de science-fiction et de fantasy d'aujourd'hui, un auteur d'imaginaire, se sent-il inspiré par Game of Thrones et par l'œuvre de Martin ? Et en quoi votre roman a un lien quelque part avec cet univers ?
Alors, si vous me le permettez, je peux, pitcher ce roman. Comme ça, vous verrez facilement, aisément, les liens qu'il y a. Alors, passons par l'histoire, puisque mon roman, en fait, s'inspire de la Mésopotamie antique. Donc, effectivement, le roman de Martine, qui lui s'inspire du Moyen-Âge, j'ai ce même lien. Alors, c'est une ville, Ubuk. Alors, c'est une transcription fantasmée d'Uruk, hein, la ville mythologique, à sa tête une reine prêtresse qui prétend descendre de dieux plus ou moins sanglants et qui réclame de la part de leurs descendants humains des croisades pour conquérir la terre et le sang des ignorants.
Daenerys.
Voilà, vous voyez déjà, les femmes de pouvoir occupent une place importante. Alors cette brave reine, elle a reine prêtresse, hein, parce qu'elle a le pouvoir temporel et religieux. Elle a un fils qui est un décadent, qui aime le vin, qui aime les femmes, qui se complaît dans la paresse.
Quelqu'un qui aime le vin et les femmes ne peut être que décadent, on est tous d'accord.
Voilà, tout à fait, ce n'est pas du tout mon cas d'ailleurs. Loin de moi cette idée. Et donc ce brave jeune homme, bien sûr, il est tellement persuadé qu'un jour il va hériter de sa mère, la reine prêtresse, qu'il va se planter dans les grandes largeurs. Et au lieu de monter sur le trône, eh bien, il va devoir partir en croisade avec des loqueteux, des fanatiques religieux et des militaires dans des endroits peu recommandables. Alors, vous allez voir que du coup, ça rejoint le trône de fer, puisque ce personnage n'est pas le seul personnage, bien sûr. C'est même pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est son esclave, qui est une femme et qui est liée à lui par un lien de magie. Et donc, encore une fois, le pouvoir chez Martin est aussi représenté par la magie. Hein, et bien, de la même façon, dans mon univers, cette dynastie qui prétend descendre des dieux peut se lier à ses esclaves. Donc, par exemple, je me lie à vous, hein, no offense, par la vue. Eh bien, vous êtes mon esclave de vue, je vois par vos yeux et inversement. Je me lie à vous par les souvenirs, votre mémoire est la mienne, par la force. Stéphanie Nico, voilà. Eh bien, votre force est la mienne. Et cette dame, cette esclave, elle est liée à son maître par la peau. Donc tout ce qu'elle ressent physiquement, eh bien, il le ressent physiquement et inversement. Donc il y a une relation très malsaine. On retrouve des ingrédients de Game of Thrones, hein, les personnages... ont d'autres personnages dans la peau, hein, littéralement. Alors là, c'est la magie qui fait ça. Cette femme, elle est obligée de partir au loin dans la croisade pour suivre son maître, parce que la magie qu'elle partage avec son maître l'étouffe si elle s'éloigne de son maître. Donc elle se retrouve loin de son fils, parce que cette dame, elle a un fils qui est maudit. Alors là encore, une thématique de Game of Thrones. C'est une magie noire qui la ronge de l'intérieur et elle est la seule à pouvoir apaiser cette magie. Et en fait, elle va devoir abandonner son fils et suivre cet homme qu'elle aime et qu'elle déteste, parce qu'on va vite comprendre que c'est pas seulement un maître et une esclave, ça a été des ex-amants qui ça s'est mal passé. Et elle se retrouve la seule à pouvoir protéger son maître dans un univers impitoyable de guerre, donc comme dans Game of Thrones. De croisades, donc avec en face des créatures mythologiques, des tribus barbares, des cultures exotiques, et puis surtout tout un petit monde de conseillers perfides, de fanatiques religieux, de guerriers qui vont circuler autour de ce prince et qui ont chacun leurs petits objectifs pernicieux ou au contraire leurs gros objectifs. Et elle va devoir débrouiller ce canevas d'intrigues pour pouvoir sauver son maître et un jour revenir voir son fils. Alors du coup, qu'est-ce qui m'inspire dans Game of Thrones ? Et je pense que c'est seulement après que je me suis rendu compte à quel point j'avais été inspiré. Parce qu'on s'est souvent demandé pourquoi ça marche aussi bien Game of Thrones. Je pense qu'il y a une réponse très simple, c'est que c'est un super bouquin en fait. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est bien écrit, il y a un monde incroyable, et surtout il y a des personnages qui ne sont pas manichéens, des personnages profonds, qui ne sont pas archétypaux, qui sont pas le bien et le mal, on est tous le lecteur veut voir des personnages qui lui ressemblent. Le lecteur au fond de lui, il est aussi abominable qu'admirable comme ces personnages. Et voilà, c'est vraiment ça qui fait la force de Game of Thrones. Je termine par une petite anecdote rigolote, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un peu la légende de Game of Thrones. L'agent de Martin, qui s'appelle Chris Lutz, quand il a lu le premier livre de Game of Thrones, c'était un fan de Babar l'éléphant. Hein. il a dit, Monsieur Martin, j'espère que votre livre deviendra aussi célèbre que Babar l'éléphant, et je crois qu'il est bien parti.
Merci pour ce petit trait d'humour et cette petite information. Épopée démesurée, interrogez le titre de cette table ronde. Nymphadora, vous qui donc avec la garde de nuit êtes passionné et creusé les romans et la série de façon approfondie, avec évidemment toute la richesse qu'apportent de nombreuses contributions, en quoi pour vous et pour tous les fans du site Game of Thrones est une épopée démesurée?
Alors, elle est démesurée par l'ampleur de l'univers que Martin a créé. Elle est démesurée par les parcours de ces personnages et par le nombre de personnages que l'on côtoie. On n'a pas un héros. On est incapable de dire qui est le héros de l'histoire. Est-ce que c'est Jon Snow? Est-ce que c'est Daenerys? Ce seraient les deux évidents, mais sauf qu'on se rend compte assez vite que finalement, ce ne sont pas forcément les vrais personnages auxquels on s'attache. On s'attache plus facilement à Arya, à Sansa. Encore que Sansa au début, pas forcément, mais on va s'attacher à Tyrion. En fait, tous ces personnages, on a une galerie tellement immense de héros et d'anti-héros qu'on est mécaniquement dans la démesure. Et on est aussi dans la démesure géographique, puisqu'on va visiter énormément d'endroits. Et c'est quelque chose qui, je pense, est très difficile à écrire. Et c'est peut-être aussi à cause de cette démesure que George Martin a du mal aujourd'hui à sortir peut-être plus rapidement des livres, parce qu'il est dépassé d'une certaine manière par tout cet univers qu'il a créé et où il a envoyé ses personnages. Ils sont tous aux confins du monde, il faut tous les ramener à un point central. Donc ça ne serait-ce que dans la démesure géographique, on est fasciné C'est aussi ça qui nous fascine. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 6800 articles sur une encyclopédie. C'est parce que il y a déjà des milliers de personnages, nommés. C'est quand même hyper rare dans une saga d'avoir un univers à la fois cohérent et si riche.
Et vous, Nicolas Allard, comment vous interprétez justement le titre de qu'on a donné à cette conférence, une épopée démesurée? Est-ce que vous trouvez que ça correspond bien à cette épopée de Game of Thrones?
Oui, ce qu'a dit Nafandora, j'y souscris totalement. Je crois qu'elle a déjà dit beaucoup de choses très intéressantes. Je voudrais peut-être revenir sur le terme d'épopée, parce qu'il y a bien une dimension épique dans Game of Thrones. On le voit avec différentes batailles, cette guerre entre les cinq rois, et puis des conflits avec effectivement une démesure totale dans le nombre de combattants qui ne correspond sans doute pas d'ailleurs à ce que l'on pourrait observer dans un vrai Moyen-Âge. Mais il y a également pas simplement l'épopée dans Game of Thrones, il y a la tragédie qui est convoquée, qui est très importante, puisque Victor le disait tout à l'heure avec des personnages non manichéens, dans la tragédie, les personnages bien souvent sont à la frontière entre le bien et le mal. On peut rappeler ce que dit Aristote dans la Poétique lorsqu'il dit que le personnage tragique, c'est un être ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais, qui passe du bonheur au malheur à cause d'une faute personnelle. Et c'est le cas d'un grand nombre de personnages de Game of Thrones. Alors, sans parler peut-être de la dernière saison, mais prenons le cas des Noces pourpres, par exemple, qui est vraiment pensé comme ici une pièce de Shakespeare, quasiment. Dans les Noces pourpres, le personnage de Robb Stark, lorsqu'il meurt, il est un personnage tragique, pas simplement parce qu'il meurt, c'est déjà une condition qui serait importante, mais c'est aussi parce qu'il commet une faute personnelle. Sa mère, Catelyn Stark, ne cesse de lui dire qu'il a des devoirs qu'il doit respecter, qu'il est important qu'il se méfie de Walder Frey, et il ne le fait pas. Donc il commet une faute personnelle qui n'est pas, à nos yeux, peut-être une faute gravissime, mais qu'il payera de sa vie. Donc je crois que Game of Thrones, c'est bien sûr une épopée démesurée, mais c'est également une épopée tragique, ou une tragédie épique, on peut dire les deux choses, mais il y a des références théâtrales très importantes. C'était dit justement tout à l'heure avec à très juste titre, il y a clairement un intertexte avec Shakespeare, avec Racine également, si on se réfère à notre propre littérature. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime tant Game of Thrones, c'est parce que le coup de théâtre devient véritablement un des principes même d'écriture de Game of Thrones. On est face à une saga qui nous surprend et qui parfois nous déçoit, mais finalement cette déception, c'est aussi ce qui nous amène à penser différemment ensuite à l'histoire, aux personnages, à vouloir revenir en arrière pour comprendre comment en est-on arrivé à tel ou tel événement qui a pu nous frapper, nous marquer, nous décevoir.
Victor Fleury, comment vous réagissez à cette notion d'épopée démesurée ?
Non, mais c'est, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est que vraiment le mythe de Game of Thrones, il vient directement des mythes de l'Antiquité qui sont démesurés de fait. Hein. On a tout, on a l'inceste qui vient directement de l'Antiquité, on a le meurtre du père, le parricide, le fratricide, on a tout ça. On a la notion de vengeance, on a la notion de avec Varys notamment. Et pareil, du coup, si je fais le lien avec mon propre processus de création, je m'aperçois qu'en fait je puise dans la mythologie. C'est peut-être d'ailleurs Martine qui m'y a poussé, parce que moi je suis nourri à la mythologie gréco-romaine, mais aussi du coup babylonienne et aztèque et compagnie. Hein. Et plutôt dans la sphère européenne-africaine, on retrouve ces thèmes. Et donc mon héroïne est motivée par la vengeance, est motivée par. Par l'amour-haine, hein. Les amants maudits, c'est aussi un grand thème. La belle-mère amoureuse du beau-fils, et là en l'occurrence, donc le frère et la sœur, et autres. Donc ce sont des grands thèmes transversaux qui parlent à tout le monde en fait. Et du coup, pour faire le lien, puisque je pense que tu prendras la parole après moi, pour l'histoire, je me demandais si la figure du roi fou. Hein, qui est détrôné, qui est un peu le personnage jeunesse de toute cette histoire de Trône de Fer, est-ce qu'il ne viendrait pas du seul roi d'Angleterre qui a fini par être découronné et emprisonné et puis exécuté ? Il me semble que c'est Édouard III au XVe siècle, ou Édouard II. C'était contre toute attente, contre toute légitimité. Mais il était tellement, disons, tyrannique que... Alors ça, c'est aussi la propagande anglaise de ces féaux qui nous font dire ça. Mais il était tellement tyrannique que finalement, on lui a arraché le pouvoir. Et ensuite, les grandes maisons se sont déchirées également autour du nouveau roi, qui était certes un plantagenet, mais qui n'avait pas la même légitimité. Alors est-ce que ça viendrait de là ? Du coup, je suis désolé, je fais les questions à votre place.
Non, mais on est là pour ça, pour que la parole circule. Hein. Laurent Vissière, moi, je voulais rebondir sur l'histoire, c'est quand même votre spécialité. Et justement, quelle vision vous avez dans Game of Thrones de la place, je dirais, des grandes forces sociales, des grandes maisons, des rapports de force, de la façon dont le pouvoir est constitué historiquement, avec ses affrontements entre maisons, avec ses rancunes, avec ses méfiances, avec cette féodalité, et puis celui qui est sur le trône, et c'est qui sont quand même des vassaux, mais un peu remuants. Quelle est la vision que vous voyez dans Game of Thrones entre des visions de l'histoire différentes, la vision où c'est plutôt les forces économiques, sociales, les grandes tendances qui font l'histoire, et une autre vision, probablement que les deux sont un peu caricaturales toutes les deux si elles sont excessives, qui est la vision de l'homme providentiel, du grand homme qui fait tout et les gens ne font rien. Comment vous voyez justement ce rapport au pouvoir, aux grandes familles, aux grandes maisons, aux individus, aux grandes masses. Quelle est la vision de l'histoire que vous voyez dans Game of Thrones ?
Disons que là, il y a une série de questions en batterie. Alors, je vais essayer de répondre. C'est avant tout une monarchie de type féodal. C'est-à-dire que nous avons un roi qui est plus ou moins un roi de droit divin. Il y a un rapport très fort avec la religion des Septons à Port-Réal, en tout cas, et un lien qui va être rompu par Cersei lorsqu'elle détruit entièrement la religion, mais là, c'est quand même, là on est dans la démesure complète. Pour le reste, la vision de Martine dévie pas mal de la réalité, parce que certes, dans tout conseil royal, il y a les représentants des grandes familles, ça c'est tout à fait normal, et il y a tout un jeu dynastique fait d'alliances, de mariages, et un jeu complexe, et on voit très bien que lorsque on ne joue pas le jeu, eh bien, ça vole en éclats. Alors, on l'a évoqué pour les noces pourpres, mais on le voit également avec Tyrion et Cersei, lorsque leur père essaye de les, enfin, va les marier contre leur gré. Hein, ils font la gueule tous les deux parce que ce n'est pas normal. Enfin, à leurs yeux, ils ont pas du tout envie d'épouser, mais le lignage compte avant tout. Ça, c'est la politique tout à fait féodale. Ensuite, là où on s'écarte de la réalité, c'est qu'on a une espèce d'utopie monarchique, avec un royaume qui recouvre d'autres royaumes, et cette couronne. Alors ça, c'est totalement impensable, parce que lorsqu'on fait passer sous sa souveraineté un ancien royaume, il n'est pas question de garder la famille régnante avec un titre inférieur. C'est-à-dire que les Stark, qui étaient rois du Nord, ne peuvent pas se retrouver gouverneurs du Nord, parce que les forces centrifuges seraient trop fortes. On installe à la place un homme, et ça serait plutôt le cas des Bolton à ce moment-là. Voilà, on prend quelqu'un qui est d'une ascendance beaucoup moins prestigieuse et qui va devenir donc l'homme du roi sur place. Là, oui, ça, c'est dans la réalité. Mais l'idée que les Tully, toutes ces familles régnantes ont accepté la domination d'un roi supérieur, qui serait plutôt de ce titre un empereur, relève en fait du fantasme qu'on trouve au Moyen-Âge dans la littérature. Par exemple, en Orient, vous avez l'empire du prêtre Jean, hein, ce personnage tout à fait imaginaire qui aurait régné sur toute une série de peuples. Et le prêtre Jean, qui est chrétien donc, impose son autorité à des rois souvent monstrueux, hein, parce qu'il y a des cyclopes, des unipèdes, toutes sortes de peuples vraiment monstrueux, qui gardent finalement une monarchie. Mais par contre, en France ou en Angleterre, il n'est pas question d'avoir un roi soumis à un autre roi. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, l'Écosse, tant qu'il y a un roi, l'Écosse est indépendante. Et lorsque les Anglais mettent la main sur l'Écosse, ils ne gardent pas la famille régnante. Enfin, c'est pas possible. C'est impensable. Alors ensuite, pour les forces économiques, bien, on les voit pas beaucoup. Alors on voit Port-Réal, c'est une vraie ville avec une vraie économie. Mais je dirais que c'est à peu près la seule. C'est fascinant de voir Winterfell où il y a un énorme château au milieu de rien. On ne sait pas ce qui gouverne, on ne sait pas où ça va. Il y a bien une ville d'hiver qui se met tant bien que mal en place, mais c'est quand même très très limité. Et j'aime beaucoup aussi les terres du Don au sud du mur qui sont a priori exploitées par la garde de nuit. Et on se demande ce qu'ils peuvent exploiter. Ça a l'air d'être de la toundra ou un climat subarctique, donc il n'y a pas d'agriculture, à la limite peut-être quelques moutons, mais l'économie rurale n'est pas vraiment bien représentée. Mais là encore, c'est très médiéval, on méprise le vilain, et puis ça ne fait pas rêver, hein, les paysans, il faut bien dire.
Nicolas Allard, toujours dans la notion d'épopée démesurée, il y a évidemment les marcheurs blancs. Quelle est, selon vous, la place que ces marcheurs blancs ont dans la construction scénaristique de l'histoire ?
Alors, elle n'est pas la même en fonction des romans et de la série. Ils sont beaucoup plus présents dans la série que dans les romans, où ils restent dans les romans une menace assez éloignée, hein, qui nous fait, qui est parfois une menace plus inquiétante quand on ne la voit pas que quand on la voit réellement. Je dirais que les marcheurs blancs, ils renvoient à la symbolique finalement de l'ensemble de la saga, à savoir que c'est une saga extrêmement meurtrière, il faut le rappeler aussi, c'est ça la démesure. Il y a une démesure dans le fait de tuer autant de personnages importants, principaux, auxquels on s'attache, et parfois de manière très surprenante. Et ce qui est intéressant, c'est que les marcheurs blancs, leur armée est composée de morts, et ces morts, c'est comme si finalement on cherchait à montrer que l'humanité, qui a été particulièrement meurtrière, eh bien, on lui jetait à la figure toute la violence qui a été répandue précédemment, puisque on attaque l'humanité avec ses propres armes. L'humanité a été très violente, elle a répandu le sang, et eh bien on va répondre son sang avec ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà partis. Donc c'est presque une manière un peu métaphorique de montrer à quel point finalement on récolte ce qu'on sème, hein, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, parce que c'est souvent un rapprochement qui est fait avec l'image des marcheurs blancs, l'idée selon laquelle l'humanité parfois va agir sans véritablement réfléchir et à plus ou moins long terme va récolter les mauvais fruits de ce qu'elle a pu semer.
Quand on regarde bien finalement tout ce qui se passe au fur et à mesure des épisodes ou des livres, même s'il y a des différences sensibles, on voit quand même que, en effet, ça décoiffe, ça massacre, ça tue beaucoup, y compris surtout au départ, hein, dans la première saison. Là, on a une vraie. Après, on commence à s'habituer un peu à la mécanique, mais au début, on est quand même. On voit venir. Hein, quand il dit à Cersei, enfin, je pense que vous avez tous eu la même réaction. En tout cas, tous ceux qui, dans leur vie, ont fait un peu de politique, ont tout de suite senti qu'à ce moment-là, il était mort. C'est au moment où il prévient Cersei qu'elle a 2 jours pour se sauver. Et à ce moment-là, on se dit tous, mais il est trop bête, il est mort. Voilà. Et ça, c'est frappant quand même, parce que c'est la première fois, ça vous prend quand même si on le voit tout petit peu venir juste avant, c'est pas le personnage qu'on imagine éliminer dès la première saison. Donc là, on voit déjà ça. Mais au-delà de ça, quand même, quand on découvre, encore une fois, par la lecture ou par la série, la violence qui s'exprime, on est dans le crime de guerre, le nombre de prisonniers qu'on exécute, hein, y compris dans la dernière saison. On est dans le crime contre l'humanité, hein, on massacre les civils, hommes, femmes et enfants, et on extermine parfois des groupes entiers. Et puis, on n'est pas loin des pires atrocités. Est-ce que vous pensez que dans cette œuvre, en tout cas telle que vous l'avez analysé, vous l'avez lu, vous l'avez regardé aussi pour la série, est-ce que vous avez l'impression que Martin brasse aussi, bien sûr, il y a le médiéval, il y a tout ça, mais est-ce que derrière, il ne brasse pas aussi toute la violence, vous parliez de la violence de l'humanité, toute la violence du XXe siècle ?
Ah oui, c'est certain. C'est certain, il y a vraiment une inspiration très forte par rapport à ça. Ça fait un peu penser justement à cette littérature post-Seconde Guerre mondiale dans laquelle on cherchait à montrer vraiment que le personnage devenait insaisissable, que l'on ne pouvait plus dire d'un côté qu'il y avait le personnage principal qui était bon, qui allait suivre un parcours plutôt ascendant, positif, moral, et les personnages mauvais d'un autre côté. Et pour revenir à ce que vous disiez, là où on essaye, où Martin justement essaye de remettre un peu en cause nos attentes, c'est avec Ned Stark par exemple, puisqu'il n'y a pas de personnage principal dans Game of Thrones, Nymphadora l'a rappelé à juste titre, mais si on regarde le tome 1, on peut presque avoir le sentiment que c'est Ned Stark le personnage principal, et le fait de le faire mourir nous laisse entendre que vraiment toutes nos attentes vont être battues en brèche, qu'il n'y aura pas de personnage principal, que personne ne pourra être absolument exclu de cette violence, du malheur. Il y a également un autre personnage que l'on peut mobiliser concernant l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et du fait qu'elle touche les civils, c'est le personnage d'Arya Stark, parce que Arya Stark, elle est confrontée à la violence, à la mort bien sûr, mais aussi à tout un tas d'atrocités, alors qu'elle n'est qu'un enfant. Et tout son parcours, en tous les cas le début de son parcours, lorsque elle essaye de fuir la mort et qu'elle voit les conséquences néfastes de la guerre sur les civils, nous fait vraiment penser à ce qu'ont pu vivre les civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Arya Stark, en un sens, elle est un peu également la figure du déporté, puisqu'elle a été obligée de quitter son château de Winterfell. Elle essaye de le rejoindre tant bien que mal, et quand elle se trouve à Arryn Hall, on a presque l'impression ici que, en tous les cas dans la série, s'est présenté comme ça, que c'est presque un camp de la mort, un camp de l'extermination. Donc vous avez raison de le rappeler, bien sûr qu'il y a une référence au Moyen-Âge qui est très très forte ici, mais il y a une référence également aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Et rappelons également que George Martin, c'est une sorte d'anti-Tolkien. Tolkien, lui, s'inspire de la littérature médiévale, et notamment, si on s'en tient à la seule littérature française, il est plutôt dans la lignée de Chrétien de Troyes qui considère justement que la figure du chevalier, c'est celle qui va apporter l'équilibre, le bonheur au peuple, que le chevalier, il va être altruiste et désintéressé. On l'a avec Aragorn dans le Seigneur des Anneaux. Alors que chez George Martin, la vision du chevalier est beaucoup plus sombre. On peut évoquer notamment le personnage du limier qui dit à Sansa, aussi bien dans les livres que dans la série, « Il n'y a pas de chevalier, il n'y a pas de dieu, tout ce que tu as pu lire précédemment dans tes contes de fées n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. » Donc là, on est effectivement face à la démonstration que l'horreur fait bien partie de l'humanité.
Est-ce que justement, le seul chevalier, le seul vrai chevalier, ce serait pas Tyrion par hasard ?
C'est possible, alors même qu'il ne porte pas...
La chevalière aussi, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, mais... il y a Brienne,
Brienne
aussi,
qui est un personnage magnifique.
Oui, 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 et qui d'ailleurs est adoubé dans la dernière saison, ce qui est une belle reconnaissance et qui montre que finalement, ce ne sont pas les apparences qui comptent dans Game of Thrones, ou que les apparences peuvent être trompeuses, mais c'est vrai que Tyrion malgré tous les défauts qui sont les siens et les erreurs qu'il peut commettre, c'est quelqu'un qui pense quand même au bien collectif globalement, en tous les cas qui y pense de plus en plus, et on voit qu'il est prêt à certains sacrifices personnels, à s'opposer parfois violemment à sa famille, parce qu'il est prêt au bien collectif. On peut rappeler également que c'est le héros principal de la bataille de la Nera, où il sauve la population de Port-Réal, et qu'il n'en retire absolument aucune gloire, bien au contraire, il devient ensuite un personnage marginalisé dans la cour. Donc finalement, oui, il correspond bien davantage à l'image que Tolkien ou Chrétien de Troyes pouvaient se faire du chevalier.
Nymphadora, sur le pouvait démesurer la place des familles, comment vous, avec toute cette équipe de bénévoles passionnés qui ont construit cette encyclopédie en ligne, comment vous voyez un petit peu justement la place des grandes familles de la saga de Martin et leur rapport à la violence, bien sûr?
Alors, ce qui est super intéressant, c'est que au début, on est dans des clichés. On a les Stark versus les Lannister, on a les bons versus les mauvais. Et tous ces rapports et tout ce qu'on a imaginé, petit à petit, va s'inverser. On va commencer à comprendre, typiquement, le personnage de Jaime Lannister, qui est lui aussi le personnage du chevalier. On apprend que celui qu'on a toujours pris pour le régicide a en fait tué un roi, non pas pour le meurtre, mais pour sauver une ville. Et on apprend à le connaître. De la même manière, Cersei Lannister, on voit finalement le combat d'une mère pour ses enfants. Combat qu'on voit en parallèle avec Catelyn Stark, qui elle aussi va se battre pour son fils et pour ses autres enfants. Et donc on apprend petit à petit à aller au-delà des clichés qui ont été posés. Et de toute manière, dans l'écriture de George Martin, c'est très marqué. Il va prendre des clichés, il va prendre des images que l'on a dans notre imaginaire populaire, et il va en faire quelque chose d'autre. Il va essayer d'aller au-delà, et ce qu'on imaginait simple en noir et blanc va finalement se révéler plein de nuances de gris.
Victor Fleury, on l'a vu tout à l'heure dans l'un de vos romans en particulier, que bien sûr c'est un univers original et personnel, mais voilà, une inspiration, vous êtes quand même porté, inspiré par, comme beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui, George Martin. Comment vous êtes aussi le fan par rapport à la série? Comment vous voyez, là, avec les yeux de lecteur et de fan, cette série et ses ouvrages aussi?
Et du coup, je vais continuer sur ce que disait Nymphadora, parce que on revient sur la question du bien et du mal, et je pense que c'est ça qui est au centre de la série et qui fait son intérêt. Typiquement, je pense que là, je suis clairement inspiré, parce que mon héroïne, je vous l'avais dit, est liée par la peau à son maître, c'est-à-dire que toutes les sensations physiques qu'elle éprouve, il l'éprouve aussi, et inversement. Donc on aurait l'impression d'une,